en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. À l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, le Musée de l'Armée a organisé en partenariat avec l'Université permanente de la ville de Paris un cycle de conférences autour de quatre armistices, intitulé « Entre guerre et paix, les armistices ». La première conférence, par Thierry Lenz, avait pour objet un armistice signé en 1813, peu connu, l'armistice de Pleiswitz. La deuxième conférence, de Jean-Jacques Becker, portait sur l'armistice de 1918. La troisième conférence, du colonel Bieuville, revenait sur l'armistice du 26 janvier 1871. Quant à la quatrième conférence, par Vincent Giraudier, elle s'intéressait à l'armistice, ou plus exactement aux armistices, de juin 1940. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de ces quatre conférences. Chacune de ces interventions est disponible dans la médiathèque de Canal Académie. Après avoir vu l'armistice de Pleiswitz de 1813 avec Thierry Lenz et l'armistice du 11 novembre 1918 avec le professeur Jean-Jacques Becker, abordons avec le colonel Bieuville un autre armistice, douloureux et donc souvent oublié, qui est celui qui conclut la guerre franco-allemande de 1871. Le colonel Bieuville, outre ses fonctions de chargé de mission au département contemporain du Musée de l'Armée, est vice-président de la Société des Amis du Musée de l'Armée. Spécialiste des trois guerres franco-allemandes, nul mieux que le colonel Bieuville ne pouvait évoquer l'armistice du 26 janvier 1871, titre qu'il a donné à sa conférence. Retrouvons-le dans l'auditorium Austerlitz du Musée de l'Armée aux Invalides.
J'avoue que quand ce sujet m'a été proposé, j'ai eu une petite hésitation. Entre les armistices de 1813 et 1814, le crépuscule du Premier Empire, l'armistice du 11 novembre 1918, l'éclat de la clairière de Retonde, la présence de Foch, l'armistice de juin 40, le choc du discours du 17 juin, c'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat, et l'appel du 18 juin, évoqué l'armistice du 26-28 janvier 1871 pouvait à certains égards paraître bien terne. Eh bien, il n'en est rien. Et au fur et à mesure où je travaillais cette question, je retravaillais cette question, en attendant le plaisir de vous revoir tous, je retrouvais l'intérêt, l'immense intérêt. Et c'est cet intérêt que je vais essayer aujourd'hui de vous faire partager. La première chose, définissons ce qu'est un armistice. Ceux d'entre vous qui n'ont pas assisté aux conférences de Thierry Lenz et du professeur Becker souhaiteront peut-être que je le rappelle. Si on prend simplement le Robert, le modeste Robert, qu'est-ce qu'un armistice ? C'est une convention conclue entre les belligérants afin de suspendre les hostilités. Et le dictionnaire ajoute, il précède habituellement la conclusion d'une paix définitive. C'est donc une trêve, une cessation provisoire des combats. Ce n'est ni un traité de paix, comme celui de Francfort ou celui de Versailles, ni une capitulation, comme la capitulation allemande de mai 1945. Cette petite définition rappelée, je crois qu'il est utile tout de même ensemble, si vous me permettez d'employer cette formule, de planter le décor. Depuis le 19 juillet 1870, la France est en guerre avec la Prusse. La France a déclaré la guerre à la Prusse. Cette dernière a immédiatement obtenu le soutien de la plupart des États allemands, grande déception française, Bade, Bavière, Est-Württemberg. Et la guerre n'est plus une guerre franco-prussienne, elle devient d'ores et déjà une guerre franco-allemande. C'est la raison pour laquelle, si vous m'autorisez, au cours de cet exposé, je dirais les Allemands, alors qu'en réalité l'Empire allemand n'apparaît qu'en janvier 71, et non pas les Prussiens, les Bavarois ou les Württembergers. Quelles sont les causes de cette guerre? Rappelons-les rapidement. Les causes immédiates, vous le savez, c'est la candidature d'un Hohenzollern au trône d'Espagne. L'Espagne se débat dans ses querelles dynastiques, vous avez tous en tête les guerres carlistes, et on songe à un prince allemand, à Hohenzollern. C'est le tollé en France. On reconstitue l'empire de Charles Quint. Il faut relire la presse de cette époque, il y a même une démesure dans la protestation. La France obtient diplomatiquement le retrait de cette candidature. C'est un immense succès, il faut bien le dire, et l'opposition républicaine dira « ces gens-là, parlant du personnel impérial, ont vraiment trop de chance ». Mais le gouvernement français, maladroitement, va demander des garanties. C'est l'ambassadeur de France qui va en être chargé. Il va rencontrer le roi Guillaume Ier, ce roi de Prusse. Ce dernier va être surpris, va préciser qu'il n'y a absolument aucune raison de demander plus. Et vous savez que c'est ce refus, en réalité présenté de façon correcte, qui va connaître une version déformée avec ce que vous connaissez tous, la fameuse dépêche d'Ems. Qui va présenter les choses d'une façon insultante pour la France, si bien qu'un ministre français dira, après en avoir pris connaissance, montrant sa joue, « Voyez un homme qui vient de recevoir une claque là ». Les causes plus profondes, il y a tout de même des causes plus profondes. Je crois vraiment, et je parle avec la plus grande prudence, qu'il y a un parti de la guerre en Allemagne. Ce parti de la guerre en Allemagne, Bismarck peut-être, sans doute même, Moltke, le chef de l'état-major général, Roon, le ministre de la guerre, sûrement. C'est par les armes que la Prusse fera l'unité allemande. En outre, ils ont réalisé que la France fait tardivement, insuffisamment, maladroitement, mais tout de même un certain effort de réarmement, c'est la loi Niel, et par conséquent, ils sont soucieux sans doute d'intervenir avant que cette loi ne remplisse ses effets. Il y a un parti de la guerre en Allemagne. Il y a aussi un parti de la guerre en France, il faut bien le dire. Les bonapartistes purs et durs, de mon type Rouher, estiment qu'une victoire militaire est indispensable au prestige de l'Empire. Ils ont le soutien, je crois, de l'impératrice. N'oublions pas que Napoléon III, à cette époque, bien que pas très âgé, est malade, vieilli. On commence à penser à la succession, certains y pensent. Et comment assurer mieux la montée sur le trône du petit prince impérial que par une éclatante victoire militaire? C'est la raison pour laquelle, dans certains milieux, notamment de gauche, on parlera au début d'une guerre dynastique. Il y a aussi des causes, soyons sérieux, plus profondes, plus importantes. Une inquiétude en France, fondée, devant cette volonté de prépondérance de la Prusse, devant la montée en puissance de la Prusse, dont la victoire de Sadowa sur l'Autriche en 1866 a été la mesure éclatante. La guerre éclate, surprise. En un mois, l'armée impériale est défaite. En Alsace, 6 août, c'est la défaite de Mac Mahon à Frechwiller. L'histoire ne retiendra que la charge des cuirassiers de réchauffement. En Lorraine, Frossard est battu. Bazaine se laisse enfermer dans Metz avec la meilleure armée française. Et enfin, Sedan. La capitulation de Sedan. L'armée dite du camp de Châlons, avec Mac Mahon et l'empereur, se laisse enfermer dans la cuvette de Sedan et capitule le 2 septembre 1870. Le drapeau blanc a été hissé sur la forteresse de Sedan. Comment expliquer un tel effondrement? C'est important parce que pour la suite des opérations, il faudrait y songer. Comment expliquer un tel effondrement? Manque d'effectifs? Peut-être. Moins de 300 000 Français au départ, contre près de 500 000 Allemands. Mais réellement, je ne crois pas que c'est définitif. C'est une explication décisive. Bazaine, en particulier, sous Metz, pendant 2 jours, a eu la supériorité du nombre. Il ne l'a pas exploité. Armement, oui. 900 pièces françaises, 900 pieds d'artillerie en bronze se chargeant par la bouche, rayé toutefois, face aux 1200 canons allemands en acier se chargeant par la culasse. Ça n'est pas décisif non plus, bien que les Allemands aient été beaucoup plus habiles dans l'utilisation de l'artillerie que nous-mêmes. Mais en face de cette relative infériorité en artillerie, quelle supériorité de l'infanterie française, avec son chassepot. Tout le monde a entendu parler du chassepot, il avait fait merveille. Ce chassepot précis à 1000 mètres, tirant 6 ou 7 coups à la minute, très supérieur aux Dresde allemands. La garde royale prussienne, qui est morte à Saint-Privat, en sait quelque chose. Donc il faut peut-être chercher ailleurs les explications, et je crois vraiment que malheureusement, la cause essentielle de notre échec, de nos échecs du début de campagne, c'est la faiblesse de notre commandement. Ne reprenons pas le cas de Bazaine, à lui seul il suffirait une conférence. Citons simplement l'étonnante formule de Charles de Gaulle, historien, parlant de Bazaine, une inertie sournoise. La formule est très belle. Prenons l'exemple de l'armée de Châlons. L'armée de Châlons, c'est l'armée qui s'est rassemblée au camp de Châlons, avec Mac Mahon et l'empereur. On dit souvent, armée médiocre, regardez la campagne, regardez, ce n'est pas exact. Regardez les charges de cavalerie de Sedan, ce sont des charges héroïques, peut-être plus héroïques qu'intelligentes, mais ce sont des charges héroïques. Regardez l'infanterie de marine, elle va se battre héroïquement. Mais prenons le problème du commandement. Quand cette armée est constituée, 2 idées de manœuvre. L'une, couvrir Paris. L'autre, monter vers Metz et prendre à revers les armées allemandes qui assiègent Bazaine dans Metz. Les 2 idées sont parfaitement valables, stratégiquement. Mais au moins faut-il s'en tenir à une et pas hésiter pendant plusieurs jours entre l'une et l'autre. La deuxième, surtout, suppose rapidité dans l'exécution, ce qui ne sera pas le cas. Première constatation sur cette armée du camp de Châlons. Deuxième constatation. Dans les journées décisives des 1er et 2 septembre 1870, elle va changer 3 fois de commandant en chef. Mac Mahon, blessé, certes, donne le commandement à Ducrot. Il a une idée de manœuvre. Sortir du côté de Mézières. De Wimpffen arrive, quelques heures plus tard, l'aide de commandement veut remplace Ducrot à une autre idée de manœuvre. 3 commandants en chef, pratiquement en une journée, c'est pour le moins de trop. Sans oublier la présence de Napoléon III. Même malade, c'est tout de même lui qui, semble-t-il, donnera effectivement l'ordre de hisser le drapeau blanc. En face, il y a eu un commandement allemand qui savait où il allait et qui agissait comme il fallait. En fait, nous avions oublié les avertissements de notre attaché militaire à Berlin, que vous connaissez tous de nom, Stoffel, qui martelait « Méfions-nous du grand état-major prussien ». Mais la capitulation de Sedan, le 2 septembre 1870, pose 2 problèmes majeurs. L'un politique, l'autre militaire. L'empereur étant prisonnier, Napoléon III est prisonnier, qui va exercer le pouvoir? L'impératrice régente, elle est aux Tuileries. Le corps législatif, assemblée élue, qui depuis l'évolution libérale de l'Empire a pris un poids accru. Les républicains de Paris vont se précipiter dans la brèche. Dès la nouvelle est de Paris, est connue à Paris le 3. Dès la nuit du 3 au 4 septembre, Jules Favre, retenez ce nom. Qui est Jules Favre? Évoquons-le rapidement. Avocat célèbre. Il a plaidé pour les causes, nous dit marqué, si vous voulez, plaidé par exemple, la première cause qu'il a fait connaître, c'est plaider pour les canuts de Lyon. Avocat célèbre, ancien bâtonnier, orateur de talent, membre de l'Académie française, on l'oublie souvent, député républicain en 1870. Jules Favre, dès la nuit du 3 au 4 septembre 1870, propose la résolution suivante. Louis Bonaparte et sa dynastie sont déclarés déchus des pouvoirs qui leur ont été confiés par la nation. Le 4 septembre, Thiers, on revient en arrière, Thiers, le 4 septembre, le revoilà. Le 4 septembre, Thiers fait une proposition un peu différente. Une commission de gouvernement composée uniquement de membres du corps législatif va prendre le pouvoir et plus tard, on réunira une assemblée constituante. Mais vous connaissez les événements. La foule parisienne envahit le palais Bourbon. Favre propose alors de proclamer la République à l'hôtel de ville, tout le mythe de l'histoire du 19e, à l'hôtel de ville. Il va à l'hôtel de ville. Tout se fait en quelques heures. Il n'y a pratiquement eu personne pour défendre le régime impérial. Au corps législatif, je crois qu'un député, peut-être deux, ont pris la parole pour défendre le régime impérial. Et pourtant, ce régime impérial, lors du plébiscite du 8 mai 1870, avait obtenu 7 336 000 oui contre seulement 1 560 000 non. Même si l'impératrice avait été épouvantée de ce 1,5 million de non. Mais on oublie trop souvent qu'à Paris, le non l'avait emporté. 184 000 non contre 138 000 oui. Paris a voté contre l'Empire. En fait, c'est la foule parisienne, ce sont les ténors républicains présents à Paris qui ont proclamé la déchéance. Il faut tout de même ajouter une chose, je crois, banale, mais qu'il faut rappeler. L'image de l'Empire était telle qu'il pouvait difficilement survivre à une défaite militaire majeure. Mais qui sont ces républicains qui, en quelques heures, ont ainsi balayé le régime impérial et qui vont décider de la suite des événements? Voyez-vous, il y a quelque temps, au musée, nous avons fait un colloque dans lequel nous efforcions de donner la typologie des hommes en armes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis essayé à faire une typologie de ces républicains. On va prendre quelques-uns d'entre eux. Thiers, est-il déjà républicain ou est-il encore orléaniste? Est-il déjà républicain par résignation, par réalisme? Pour lui, ce serait le régime qui nous divise le moins. Ou par ambition? Sans doute par ambition, comme le disait un de mes amis au musée, il est surtout à l'époque thiériste. Jules Favre, on en a déjà dit un mot, c'est un républicain convaincu, mais je crois modéré. Gambetta, on va en parler, Gambetta. Gambetta, orateur populaire, avocat engagé, député depuis 1869, a soutenu le programme radical, mais programme radical entre guillemets, qui n'est pas le programme d'une république sociale. En revanche, patriotisme intransigeant. Et vous voyez déjà apparaître un clivage entre ces républicains modérés, Thiers peut-être, Favre sûrement, qui souhaitent faire la paix le plus rapidement, et Gambetta, républicain certes, mais qui ne veut pas faire la paix. Il pense qu'on peut et on doit continuer la guerre. Et puis il y a d'autres républicains encore, ceux qui feront la commune, qui sont présents, influents à Paris, les Blanqui, les Fourins, les Piaz, les Delescluze. Eux, pour eux, la République n'est qu'une étape vers une révolution sociale. Donc, si vous voulez, par rapport à tous ces républicains, c'est bien, quand on parle des légitimistes, c'est simple, ce sont les partisans du comte de Chambord. Quand on parle des orléanistes, c'est simple, c'est partisans de la branche cadette. Quand on parle des bonapartistes, bon, il y aura des nuances chez eux, bonapartistes autoritaires type Rouher ou bonapartistes libéraux, on pourrait citer Olivier. Bon, c'est même relativement simple. Voyez que ce personnel républicain, c'est tout à fait différent. Et encore, il faudra en citer beaucoup d'autres, y compris certains d'entre eux qui ne sont pas des hommes politiques, mais qui exercent une influence considérable, tel Victor Hugo, qui est arrivé à Paris, lui mené par sa haine de Napoléon le Petit. Ce sont ces républicains qui, à l'Hôtel de Ville, vont constituer le gouvernement dit de la défense nationale. Finalement, ce sont les républicains modérés qui vont l'emporter au sein de ce gouvernement. Favre, Jules Favre, en devient président et prend le portefeuille des affaires étrangères. Gambetta prend l'intérieur. Avec eux, parmi les extrémistes, pourrions-nous dire, ils prennent Rochefort, le Marquis Rouge, polémiste célèbre, vous connaissez tous les formules de Rochefort, l'Empire compte 36 millions de sujets, non compris les sujets de mécontentement. On a pris... Vous m'entendez bien? Oui, parce que... Non. On a pris Rochefort parce qu'on a pensé qu'il fallait mieux l'avoir dedans que dehors. Mais finalement, ce sont là des, je dirais, des républicains relativement modérés. Et puis, va arriver qui comme président? Trochu. Trochu qui arrive et qui s'impose pratiquement comme président de ce gouvernement de la défense nationale. Ce que les autres acceptent, et Jules Favre ne sera plus que vice-président. Trochu, pour le situer, il a demandé simplement une chose, que l'on respecte Dieu, la famille, la propriété. Je crois que ça situe bien le personnage. Soyons clairs, ce gouvernement ainsi constitué a majoritairement l'idée de conclure le plus rapidement un armistice. J'insiste sur ce point parce que il est évident que tout au long de la période, il ne faut pas imaginer que l'armistice de janvier 1871 est arrivé brutalement. Dès le début, dès septembre 70, le nouveau gouvernement a songé à un armistice. Favre, pour lui, est-ce une illusion de sa part? Est-ce un argument? Il pense que la Prusse a fait la guerre à l'Empire, non à la France. Si elle a fait la guerre à l'Empire, l'Empire étant tombé, la cessation des hostilités est possible. Mais à quelles conditions? Le gouvernement a été constitué le 4 septembre. Dès le 6 septembre, il envoie une circulaire indiquant « Nous ne céderons ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses. » C'est encadrer dès alors la possibilité, les négociations qui vont s'ouvrir. Il y a une répartition des tâches. Thiers, qui est connu internationalement, va partir pour Calais dès le 12 septembre. Il va faire une mission auprès des capitales européennes pour demander l'appui des capitales européennes. On va simplement lui prodiguer des conseils. Faites un armistice le plus vite possible, élisez une assemblée souveraine et négociez le traité de paix. Favre, lui, va rencontrer Bismarck. Et ceci dès le 18-20 septembre 1870. Voyez, la capitulation de Sedan est du 2, le gouvernement de défense nationale se met en place le 4, et Jules Favre rencontre Bismarck dès le 18-20 septembre 1870. Alors là, il y a une particularité, j'étais tellement surpris que j'ai recontrôlé mes sources un petit peu dans tous les sens. Jules Favre n'a prévenu de sa démarche que Trochu, président du gouvernement de défense nationale, Thiers et le général Leflot, ministre de la guerre. Ça veut dire qu'il n'a pas prévenu de la démarche fondamentale qu'il allait accomplir, il n'a pas prévenu les autres membres du gouvernement. C'est tout de même assez extraordinaire. Du côté allemand, le principal interlocuteur, c'est donc Bismarck. Permettez-moi d'employer une formule qui va peut-être vous paraître familière, pardonnez-moi. Quand on relit attentivement, on a le sentiment que Bismarck joue un petit peu au chat et à la souris. Il traite Jules Favre en ministre. On reçoit son excellence. Mais il fait des allusions à l'empereur. Il laisse entendre qu'il pourrait encore négocier avec Napoléon III. Il fait des allusions au corps législatif, qui n'a pas disparu complètement dans une trappe. Il souligne, c'est pas très aimable, que Favre a été porté au pouvoir par la populace. Le mot sera connu et le peuple de Paris offrira un canon qu'il appellera populace. Sur le fond, Jules Favre propose purement et simplement une indemnité. Bismarck, lui, demande... Il y a un point sur lequel Bismarck est clair. C'est sur les conditions mêmes de l'armistice qu'il est prêt à consentir. Il demande l'occupation de plusieurs villes. Falsbourg, Tours, Strasbourg. Strasbourg qui résiste encore. Et enfin, l'occupation du fort du Mont-Valérien. Pour les négociations de paix futures, il a été beaucoup plus flou, même si en réalité, quand on regarde les choses de près, il apparaît de façon presque évidente que l'Alsace et la Lorraine de langue allemande figuraient dans les buts de guerre allemands. Vous savez très bien, Favre pleure. Écoutez, riez pas trop, mais les larmes de Favre, on en parle tout le temps. Il a même été surnommé l'urne lacrymatoire, ce qui n'est pas très aimable. Il va pleurer, bien sûr, il va pleurer. On rira un peu des larmes de Favre avant de remarquer qu'il était réellement dans une situation impossible. C'est l'échec des pourparlers. Favre rentre à Paris, où l'accueil des autres membres du gouvernement est plutôt frais. C'est au retour qu'ils apprennent qu'il y a eu cette démarche. Il y a peut-être de quoi, effectivement, être un peu irrité. Mais finalement, le sentiment qu'il faut continuer la lutte contre l'ennemi allemand prévaut. Je vous ai dit tout à l'heure, et je crois que c'est très important, que tout au long de la période, l'idée d'un armistice ne cessera de cheminer et de réapparaître. Alors, puisque je viens de traiter de la démarche de Favre, là, cette fameuse entrevue connue sous le nom d'entrevue de Ferrières, hein, parlons peut-être tout de suite de la mission Thiers. Parce que Thiers rentrait de sa mission auprès des capitales européennes aura lui-même une seconde mission à la fin du mois d'octobre. Et lui-même rencontrera Bismarck à la fin du mois d'octobre. Deuxième tentative pour obtenir des conditions d'armistice. Hein ? Donc, si vous voulez, n'oublions pas, deux tentatives, celle de Favre-Ferrières, celle de Thiers à la fin du mois d'octobre 1870. Il demande un armistice principalement pour ravitailler Paris. Bismarck ne dit pas non, mais demande un ou plusieurs forts protégeant la capitale, ce qui en réalité est mettre Paris sous la menace des directs des canons allemands et entamer sa ceinture fortifiée. Et donc, là aussi, Thiers ne peut pas accepter. Cette deuxième tentative échoue. Elle échoue d'autant plus que le 31 octobre, il y a un mouvement insurrectionnel à Paris. Car Paris s'agite, et notamment les quartiers de l'Est. Ce gouvernement de la Défense nationale est tout le temps menacé par l'agitation populaire. Drame, Bismarck l'a appris avant-hier. Et il lui dit, vous menez des pourparlers au nom d'un gouvernement qui n'existe plus. Bon, c'est que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais c'est le deuxième échec. Et vous savez très bien que Thiers revient. Non, il ne rentre pas à Paris. Il ne veut pas rentrer dans Paris. Notez bien ce fait, qui est assez important. Il va simplement rencontrer Jules Favre. Il faisait très froid par ce maussade matin d'automne. Favre, encore plein d'espoir, était allé attendre le négociateur sur la rive droite de la Seine, non loin du pont de Sèvres. Il vit soudain sur la rive opposée Adolphe Thiers s'embarquer dans une fragile embarcation en compagnie de deux officiers prussiens qui brandissaient un drapeau blanc. La barque accosta bientôt et le vice-président du gouvernement provisoire, Favre, reçut le pèlerin de la paix, Thiers, avec effusion. Il comprit à son air qu'il ne rapportait rien de bon. Une image populaire a fixé les détails de cette rencontre. On y voit le vieil orléaniste, l'est-il encore, vêtu d'un manteau à pèlerine, redressant sa petite taille à côté de Jules Favre, chaussé de guêtres qui lui montent jusqu'aux genoux. Dans le fond, on voit deux Prussiens en casque à pointe. Les deux hommes allèrent s'entretenir dans une petite maison à demi ruinée de Billancourt. On refuse, le gouvernement français refuse les exigences de Bismarck. Favre rentre dans Paris, Pierre, lui, repart pour tout. Reste le problème militaire. Voici un bon moment que nous abordons le problème politique et le problème diplomatique. Abordons le problème militaire. Deux aspects essentiels. Depuis le 20 août 1870, Paris est investi totalement. Paris dans lequel le gouvernement s'est enfermé, ce qui était peut-être ou sans doute une erreur. Le gouvernement, sauf la délégation de Tours, vous avez tous en mémoire, car il fut un temps où le manuel d'histoire consacrait toujours une page à cette image, Gambetta sortant de Paris le 8 octobre en ballon pour animer la délégation de Tours. Gambetta, à Tours, va être à la fois ministre de la guerre et ministre de l'intérieur pour la province. Il nomme de nouveaux préfets, tous républicains. Pour les questions militaires, il est aidé de Charles de Freycinet. On ne peut pas le contester. Il a mené un effort immense et je ne donnerai que deux chiffres, parce que le temps passe, pour illustrer cet effort. En quelques mois, le gouvernement de la Défense nationale a levé plus de 600 000 hommes, retenez ce chiffre, et acheté près d'un million d'armes portatives à l'étranger, notamment anglaises et américaines. C'est ce qui a permis de constituer les fameuses armées de province. L'armée de la Loire, d'abord, qui sous Dorel de Paladine va remporter le 9 novembre 1870 la victoire de Coulmiers. Mais, dès le 28 novembre, elle est vaincue à Beaune-la-Rolande et à nouveau à Loigny et Patay les 2 ou 3 décembre 1870. L'armée du Nord, Féderbe est intelligent, il observe que les lignes allemandes sont étirées vers la Normandie. Venant de Nord, il les attaque de fouet. Féderbe, qui dans le nord, attaque les troupes allemandes étirées vers la Normandie. Succès à Bapaume le 3 janvier 1871. Réaction allemande, il est battu à Saint-Quentin le 19 janvier. Armée de l'Est. Oh, je sais, parler de l'armée de l'Est, vous allez tous sourire, parce que c'est l'armée Bourbaki. Alors je sais bien que quand on décrit une troupe en désordre, on dit c'est l'armée Bourbaki. L'armée de l'Est, l'armée Bourbaki. Idée stratégique intelligente, hein, qui consiste non seulement à débloquer Beaufort assiégé, mais encore à couper les lignes de communication allemandes entre l'Allemagne et l'armée allemande qui assiège Paris. L'idée stratégique n'est pas sotte, éventuellement poussée plus loin, mais là c'était peut-être le rêve. Cette armée remporte un succès à Villers-Excel le 9 janvier, mais elle se laisse bloquer à Héricourt les 15 et 17 janvier 71. Notez cela, nous en reparlerons tout à l'heure. Trois fois un succès, trois fois 15 jours après, suivi d'un échec. Les armées de province, et pendant ce temps-là, Paris. Le siège de Paris qui se prolonge. Alors j'attire votre attention, ce siège de Paris est une donnée fondamentale. Car à partir du moment où le gouvernement estimera que Paris ne peut plus résister, il reprendra les négociations pour un armistice. Et il ira ainsi le sort de la capitale à la négociation d'un armistice général. Ce qui n'était ni évident, ni nécessaire, ni peut-être inévitable. Qui commande militairement à Paris ? Trochu. On l'a vu tout à l'heure. Non. Le revoilà. Trochu. On va reparler un petit peu de Trochu. Je vous ai dit un mot tout à l'heure. C'est lui qui a pris la présidence du gouvernement de la Défense nationale. Trochu a de beaux états de service. Algérie, Crimée, Italie. Trochu a dit non au rétablissement de l'Empire. Ce qui n'a pas gêné sa carrière. Il a pris une assez belle carrière militaire. Mais il a publié en 1867 une critique de l'armée française qui a fait qu'il est dans une relative défaveur auprès du pouvoir impérial. Mais il est assez populaire dans Paris. Quels sont ses moyens ? Penchons-nous un petit peu sur ça. Deux points à noter. Paris, depuis 1840, vous le savez, est entouré d'un système fortifié. Ce système fortifié a été renforcé dès le mois d'août, avec des ouvrages intermédiaires, de l'artillerie, notamment de marine, servie par des marins venant renforcer celle des forts. Le système fortifié de Paris est complet. D'ailleurs, les Allemands n'arriveront pas à l'atteindre, à le percer. Ils disposent de près de 500 000 hommes. Une trentaine de milliers de troupes régulières, notamment le corps d'armée de Vinoy, des marins remarquables, des mobiles souvent bons, et des gardes nationaux, inégaux. Voici les moyens dont ils disposent. Apparemment importants, entre 300 et 500 000 hommes. La presse parisienne de gauche réclame la sortie torrentielle. Je connais peu de périodes où on se soit autant gorgé de mots que pendant cette période. Réclame la sortie torrentielle. Lui, Trochu, que fait-il, Trochu ? Que veut-il ? Mais il a son plan. Alors, je vais vous faire un aveu. Je disais à une de nos brillantes, jeunes et brillantes conservateurs l'autre jour, en préparant cette conférence, j'avais de plus en plus d'hésitations et je me posais de plus en plus de questions. Je peux l'avouer devant vous. Bon. Quel a été le plan de Trochu ? J'ai cherché ce plan. Je ne l'ai pas vraiment trouvé. Pendant un temps, il avait pensé qu'il fallait attaquer du fort au faible, ce qui était intelligent, c'est-à-dire du côté de l'ouest. Et puis ensuite, à un autre moment, il a pensé, ou il semble avoir pensé, qu'il fallait attaquer vers le sud, pour tendre la main à l'armée de la Loire. Résultat, il attaque vers l'est à Champigny et au nord vers le Bourget. Alors, il faudrait que je recreuse un petit peu la question. Il y a des raisons chaque fois, si vous voulez, mais ça me laisse tout de même un petit peu hésitant. D'ailleurs, si vous me permettez, ce plan de Trochu, on en a ri. Et dans Paris, on disait... Je suis le plan de Trochu, plan, 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 plan. Mon Dieu, quel beau plan! Je suis le plan de Trochu, grâce à lui, rien n'est perdu. Vous savez, quand on commence à dire ce genre de choses, ça n'est pas tout à fait rassurant. Il y a effectivement eu des sorties, tentatives de sortie. celle de Champigny, le 30 novembre 1870, dans lequel on a engagé des moyens considérables. 130 000 hommes de la garde nationale, 100 000 hommes sous Ducrot, 70 000 avec Vinoy. Réussite le 30 novembre. Inaction le 1er décembre par une nuit glacée. Refus, contre-attaque allemande et reflux le 2 décembre. C'est l'affaire de Champigny. Il y en aura une autre, tardivement, parce qu'il y a la pression de l'opinion qui dit « sortie torrentielle, il faut y aller ». Il y aura Buzinval, 19 janvier 71, ultime effort. Les bataillons de marche de la garde nationale, ce sont d'ailleurs, plusieurs d'entre eux, bien conduits. Mais au cri « Vive la République », ce qui a peut-être inquiété certains. Vous savez ce que dira Victor Hugo, ce mot terrible, en parlant de Trochu, Trochu, participe passé du verbe « trochoir ». Pendant ce temps, quel est le sort de Paris? Quelle est la situation de la population parisienne? Vous savez, le siège de Paris est entré dans la légende, vous le savez tous, hein. Et on peut en avoir plusieurs lectures de ce siège de Paris. Oui, on peut en avoir une lecture, je dirais, presque pittoresque ou amusée. Vous connaissez tous ce petit quatrain qu'on trouvait au marché Saint-Germain. L'héroïque Paris brave les Prussiens. Il ne sera jamais vaincu par la famine. Quand il aura mangé la race chevaline, il mangera ses rats et ses chats et ses chiens. Vous connaissez tous peut-être aussi ce recueil de recettes. Consommé de cheval au millet, brochettes de foie de chien à la maître d'hôtel, émincé de rabe de chat sauce mayonnaise. Et je vais arrêter, j'ai 10 plats. Donc, il y a une lecture pittoresque, si vous voulez, du siège de Paris. Il y a la mort. J'ai peur que mon discours soit trop austère, alors permettez-moi de sourire de temps en temps. La mort tragique de Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des Plantes. Bon. Effectivement. Donc, il y a cette lecture pittoresque du siège de Paris. Il y a quelque chose... C'est un peu plus difficile à dire. Est-ce que pendant ce siège, où il y a eu réellement des privations terribles dans certaines catégories de la population, est-ce qu'il y a eu de la spéculation? On note, par exemple, que quand, début novembre, le bruit d'un armistice a couru, il y a des épiceries qui ont été parfaitement achalandées. Et dès qu'on a su que la tentative d'armistice avait échoué, elles se sont vidées. Est-ce exact? Il y a eu aussi... Y a-t-il eu des inégalités dans les difficultés de la vie quotidienne? Oui, le comte d'Hérisson, dont je vous recommande des ouvrages qui sont merveilleux, donne ainsi le menu du Jockey Club le 1er janvier 1871. Potage au pain, premier service côte de bœuf rôti, poulet au riz, deuxième service épinards au jus, glace groseille et vanille. C'est pas mal après 3 mois de siège. Ceci dit, je me hâte de dire, Hérisson le dit et je reprends sa phrase, peut-être inégalité devant les souffrances quotidiennes, mais incontestablement égalité devant l'héroïsme et le courage. Permettez-moi tout de même, après avoir donné ce menu qui peut donner à penser, de donner quelques noms des membres de ce club aristocratique. Capitaine le sergent d'Andecourt, mort au combat. Commandant comte de Dampierre, mort au combat. Colonel vicomte de Grancey, mort au combat. Capitaine Charles d'Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, mort au combat. Capitaine comte Robert de Vogüé, mort au combat. Colonel Guy Dubesset de Contenson, mort au combat. Capitaine vicomte de Raffelli de Saint... Je pourrais continuer la liste. Je crois qu'il était... équitable de rappeler toutes ces données car elles sont importantes. Il reste, et c'est tout de même tragique, qu'il y a eu à Paris une terrible mortalité infantile parce qu'il y a eu le froid, la température est descendue à moins 15 et très rapidement on a manqué de charbon. et il y a eu le manque de lait. La mortalité infantile a été redoutable pendant le siège. Et les classes, il faut bien le dire, populaires, ont beaucoup souffert. Il faut y ajouter le bombardement. Dès le 5 janvier 71, l'artillerie allemande tire sur Paris. Vous connaissez tous ce télégramme du roi de Prusse à la reine. Aujourd'hui, l'artillerie a commencé le tir sur les forts de Paris. Non, ce n'est pas sur les forts de Paris, sur la ville. Et la rive gauche a reçu des obus allemands. La situation devient tragique. Et le gouvernement, cette fois, se prononce pour l'armistice. Il réunit les maires le 20 janvier 71. Il y a Favre, il pleure. C'est son habitude. Hein, bon. Il y a un exposé de Trochu, les maires refusent. Il faut continuer le combat. Un conseil de guerre se tient le 21 janvier 71. Même position de la part de Favre et de Trochu, l'armistice est maintenant inévitable. Même hostilité des maires. Trochu donne sa démission de gouverneur militaire de Paris. C'est Vinoy qui est nommé commandant en chef de l'armée de Paris. Il y a à nouveau des émeutes, des journées révolutionnaires dans Paris. Et puis, le 22 janvier, le gouvernement annonce que la commission de l'alimentation s'est trompée. Il n'y a plus de farine. À partir de demain, il n'y aura plus de pain. Alors me voici à nouveau devant mes hésitations. Et à nouveau devant un auditoire tel que le vôtre, je crois que je peux avouer mes hésitations. Est-ce vrai? Est-ce faux? J'ai retrouvé dans Choses vues, vous connaissez tous, Choses vues de Victor Hugo, j'ai retrouvé un texte qui est rarement cité. Le 15 décembre 1970, Victor Hugo écrit: Emmanuel Arago, ministre de la Justice, est venu me voir et m'annoncer qu'on avait de la viande fraîche jusqu'au 15 février et que désormais, on ne ferait plus à Paris que du pain bi. On en a pour 5 mois. J'ai compté sur mes doigts, hein. Ça fait le 15 mai. Alors on peut peut-être admettre que la commission du ravitaillement s'était très gravement trompée. Il y a un petit doute. Le 23 janvier, Favre charge le comte d'Hérisson de porter une dépêche à Bismarck. Le 24 janvier, Hérisson exécute cette mission. Et le soir même, il apporte la réponse positive. Bismarck va recevoir Favre. Et Favre décide de partir le soir même en se cachant. La voiture qu'il a emmenée, il était dans le fond de la voiture et deux officiers aux portières le cachaient pour qu'il ne soit pas reconnu par les gardes nationaux. Le pont de Sèvres étant coupé, les négociateurs franchissent la Seine dans une embarcation. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce texte. Nous montâmes dans une petite barque. Les factionnaires prussiens qui montent, Favre, vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, et des officiers français. Les factionnaires prussiens l'avaient trouvé comme une écumoire à coups de fusil, jusqu'à sa ligne de flottaison à vide. Le poids de nos corps ayant fait descendre cette ligne au-dessous du niveau du fleuve, l'eau entrait de toutes parts par une centaine de petites bondes naturelles. C'eût été exquis pour conserver du poisson, c'était un peu primitif pour transporter des chrétiens. Nous avions réellement peur de couler. Nous commençâmes par boucher avec des fragments de nos mouchoirs, avec des bourres de papier, les plus grands trous. Une vieille casserole de fer blanc ramassée au fond de la barque, qui porte le vice-président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, fut transformée en écope et me permit de rejeter l'eau qui filtrait par les autres petits trous et par les joints. La Seine charriait des glaçons de 2 à 3 mètres carrés qu'il fallait éviter. La nuit était noire et loup sous le ciel bas, la Seine eût semblé un fleuve d'encre. Avec son chapeau de forme, sa redingote noire d'avocat mal habillé, sa figure y chancrée comme un croisant de lune attristée, et sa serviette ministérielle. Jules Favre était beaucoup trop moderne pour figurer le Dante. Je crois qu'il fallait tout de même vous lire ce texte. Jules Favre va se retrouver à nouveau devant Bismarck. Bismarck, nous l'avons vu tout à l'heure, le colosse Bismarck, en uniforme de cuirassier blanc. Ce Bismarck, d'une vitalité extraordinaire, vous savez que pendant son repas, il alternait le champagne, la bière et le vin du Rhin mêlé de limonade. Bon. Qui d'entre nous résisterait à un tel régime ? En face de lui, Jules Favre, je l'ai dit, l'urne lacrymatoire, et son éternelle redingote qui, écrit Risson, lorsqu'il était assis, prenait sur sa poitrine l'apparence d'un soufflet d'accordéon. Bismarck, là encore, joue plusieurs cartes. Il conteste la légitimité de Jules Favre, avec lui la possibilité encore de traiter avec l'empereur. C'est sous-jacent tout au long de la période. Et la possibilité aussi, pour lui, de traiter avec une assemblée élue, le corps législatif. Lui, Jules Favre, demande deux choses. Un armistice et des élections. Reprenons la chronologie. La première entrevue est le 24 janvier 1871. Jules Favre fait des allers-retours entre Versailles et Paris pour rendre compte, cette fois, au gouvernement. Les choses sont suffisamment avancées pour que le feu cesse dans la nuit du 26 janvier au 27 janvier et la convention d'armistice est signée à Versailles par Favre et Bismarck le 28 janvier. Pas traité de paix, je vous réponds à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises, convention d'armistice. Et les forts entourant Paris, c'est dans la convention, sont occupés dès le 29 janvier. Vous connaissez les termes essentiels de cette convention. Paris versera une indemnité de 200 millions. Paris ne sera pas occupé. Paris sera librement ravitaillé. Les drapeaux ne seront pas livrés, l'armée sera désarmée, mais non prisonnière. Les forts seront livrés et occupés par les Allemands dès le 29. Vous savez que dans cette convention, il y a une chose tragique, c'est la fin de l'article 1er. Je l'ai apporté à la convention, l'analyser ensemble prendrait 2 heures. Je pense que ça lasserait votre patience. Je vous lis tout de même la fin de l'article 1er. Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte d'Or, ainsi que le siège de Beaufort, se continueront indépendamment de l'armistice. Ce qui veut dire que partout, les hostilités cessent, sauf pour l'armée de l'Est, cette fameuse armée Bourbaki. Alors, vous trouverez parfois, ou même souvent, que c'est un oubli de Jules Favre. Ben non, c'est dans la Convention. Je suis surpris de voir des ouvrages éminents dire que Jules Favre l'a oublié. C'est dans la Convention. Bon. Donc ce n'est pas un oubli. Est-ce qu'il y a eu une manœuvre allemande ? Possible. Les Allemands ont été inquiétés par cette armée de l'Est. Est-ce qu'il y a eu une illusion française ? C'est un peu la thèse de Rustov dans sa guerre des frontières du Rhin. Le gouvernement de la Défense nationale se faisait encore le 28 janvier des idées incroyables sur la valeur de Beaufort et de l'armée française de l'Est. Entre ces différentes hypothèses, je vous les soumets. Je n'ai pas encore fait mon choix, mais le résultat, c'est que cette armée de l'Est sera internée en Suisse. Dès que la convention est signée, Jules Favre adresse un télégramme à Gambetta pour l'informer. Et vous savez que Gambetta n'accepte pas cet armistice. D'où sa protestation qui est datée du 31 janvier à Bordeaux, on a signé à notre insu, sans avertir, sans nous consulter, un armistice dont nous n'avons connu que tardivement la coupable légèreté, qui livre aux troupes prussiennes des départements occupés par nos soldats, on pourrait en parler, mais ça nous retarderait, et qui nous impose l'obligation de rester 3 semaines au repos. C'est la protestation de Gambetta. Jules Simon sera envoyé à Bordeaux et Gambetta démissionnera. Ça pose tout de même 2 ou 3 questions fondamentales. Fallait-il lier reddition de Paris et armistice général? 2e question. Pouvait-on encore résister? Pour Gambetta, oui, on pouvait encore résister. Quels sont ses arguments? Il y avait une certaine lassitude en Allemagne devant cette guerre qui s'éternisait. Les pertes allemandes avaient été importantes. Comment l'Allemagne aurait-elle fait pour occuper toute la France? J'ai parlé de pertes, je citerai un fait que j'ai retrouvé sous plusieurs signatures, je crois exactes. L'armée allemande n'avait pratiquement plus de cavalerie légère. Uhlans et Hussards avaient été massacrés dans les embuscades. Elle faisait faire sa reconnaissance par de la cavalerie lourde. Et encore, autre argument, les ressources de la France n'étaient pas épuisées. Voici les arguments de ceux qui pensent qu'on pouvait encore continuer la lutte. Ils recevront, bien des années après, un appui moral important. Ce fut le sentiment de Foch. Foch a pensé qu'on pouvait continuer la lutte. En face, il y a ceux qui vous disent non, c'est impossible de continuer. D'abord, il y avait le désir de paix de la France profonde. C'est vrai, et qu'avoir le résultat des élections, qui va donner massivement des députés à qui elle est de l'idée de paix. Et puis, il y avait nos échecs successifs. Ce n'est pas innocemment. Si tout à l'heure, vous parlant des armées de province, je citais « succès » 15 jours après les fêtes. Comme si chaque fois ces armées que Gambetta réussit à se faire sortir de terre, j'en conviens, surprenaient les Allemands, mais chaque fois la machine de guerre allemande se remettait en route et l'emportait. Je crois que c'était absolument indiscutable. Pourquoi d'ailleurs nous manquions d'encadrement? On oublie trop souvent de le dire, la plupart des officiers ont été faits prisonniers, soit à Metz, soit à Sedan. Et puis c'est une nouvelle guerre. On n'est plus en 1792. Le gouvernement, certains rappelaient les volontaires de l'an 2, bien sûr, mais on n'est plus à une guerre avec des colonnes chargeant à la baïonnette derrière ses tambours en criant « Vive la nation !» Ce n'est plus la même guerre. Cette guerre ne s'improvise plus. Regardez l'armée de l'Est. Une des causes de son échec, ce sont les wagons qui la transportaient restant bloqués 2 jours. Parce qu'on n'a pas su régler le problème des transports. Bon. Le problème logistique, j'ai parlé 1 million d'armes portatives achetées, c'est vrai. Mais on n'a pas de... Enfin, je veux dire, pas de pareil, j'exagère. Mais il y a d'innombrables modèles, de calibres différents. Et parfois même, quand ils ont les mêmes calibres, pas la même configuration de chambre. Bon. Il y a tout de même une part de rêve. Et voyez-vous, le plus bel exemple, c'est Victor Hugo, disant au moment du siège, ils sont 300 000, nous sommes 3 millions, soufflons dessus. Eh bien, ne souffle pas sur des canons croupes. Reste, car je ne peux pas ne pas la citer, l'accusation terrible portée par l'historien très engagé Guillemin, notamment dans un article publié dans Le Monde en 1871, selon lequel les Jules Favre, Jules Simon, Jules Ferry, aurait privilégié la lutte contre l'ennemi intérieur, les Rouges, au détriment de la lutte contre l'ennemi extérieur, les Prussiens. Jugement qui me paraît excessif, je ne peux tout de même pas supposer tant de noirceurs à Favre ou à Thiers, qui ont tout de même négocié pied à pied pour obtenir le maximum, récupérant Beaufort, rectifiant les frontières. Non. Et puis surtout, et j'en disais un mot hier au professeur Becker, qui était, je crois, assez de cet avis, de toute façon, la discipline et l'organisation allemande l'auraient sans doute emporté sur la lassitude et l'improvisation française. L'armistice était sans doute inévitable. Les armes se sont tues, troublées seulement par le coup de revolver de cet officier français qui se tirera une balle dans la tête plutôt que de rendre le fort dont il avait reçu le commandement. Le fait est authentique. Le traité de Francfort viendra, signé le 10 mai 1871. Vous en connaissez les termes essentiels. L'indemnité de 5 milliards, peine d'argent n'est pas mortelle. L'Alsace, une partie de la Lorraine. Ce qui va marquer profondément les mentalités françaises pendant plus de 40 ans. Et vous le savez. D'autant que il fallait encore à la France et à Paris une ultime épreuve, quelques semaines avant Francfort, le défilé des troupes allemandes dans Paris. Une journée, à l'ouest. Et vous me permettrez, pour achever, si vous m'accordez 3 minutes, vous me permettrez de lire tout de même cette étonnante nouvelle d'Alphonse Daudet dans les Contes du lundi, qui rapporte l'histoire de ce vieillard qui avait été officier de cuirassier sous le Premier Empire, à qui on a menti pendant toute la guerre. On a inventé chaque jour une victoire française. On lui a dit que le siège de Berlin était commencé. Et puis il entend parler d'un défilé. Il croit que c'est le défilé victorieux des armées françaises du retour. Et alors, il s'était sans doute imaginé qu'on voulait l'empêcher d'assister à ce défilé de nos troupes pour lui éviter une trop grande émotion. Aussi se garda-t-il bien de parler à personne. Mais le lendemain, à l'heure même où les bataillons prussiens s'engageaient timidement sur la longue voie qui mène de la porte Maillot aux Tuileries, la fenêtre de là-haut s'ouvrit doucement. Et le colonel parut sur le balcon, avec son casque, sa grande latte, toute sa vieille défroque glorieuse d'ancien cuirassier de Milo. Je me demande encore quel effort de volonté, quel sursaut de vie l'avait ainsi mis sur pied et harnaché. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il était là, debout, derrière la rampe. C'est étonnant de trouver les avenues si larges, si muettes, les persiennes des maisons fermées, sinistres. Un moment, il put croire qu'il s'était trompé. Mais non, là-bas, derrière l'arc de triomphe, c'était un bruissement confus, une ligne noire qui s'avançait dans le jour levant. Puis, peu à peu, les aiguilles des casques brillèrent, les petits tambours d'Iéna se mirent à battre et sous l'arc de l'étoile, rythmé par le palourd des sections, par le heurt des sabres, éclata la marche triomphale de Schubert. Alors, dans le silence morne de la place, on entendit un cri terrible, aux armes les Prussiens. Et les 4 hulans de l'avant-garde purent voir là-haut, sur le balcon, un grand vieillard chanceler en remuant les bras et tomber raide. Cette fois, le colonel Jouve était bien mort.